BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevriot.
Grande interview avec notre invité, c'est Franck Gervais. Il est le directeur général et le patron de Pierre et Vacances Center Park. Bonsoir Franck Gervais. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En plus, vous avez retrouvé le sourire parce qu'après 10 ans de pertes, Pierre et Vacances affiche enfin un bénéfice de 325 millions d'euros. Et ce, on va le voir, grâce à Center Park qui ont cartonné. Mais ben, on a aussi envie de savoir comment se présentent les vacances de Noël, l'hiver à la montagne. On va parler aussi des passoires thermiques. Mais d'abord, est-ce que vous vous dites, ça y est, enfin, on est sorti de l'ornière?
Les chiffres, il faut les prendre avec précaution, comme d'habitude. Vous avez cité le résultat net cette année, mais il y a des produits financiers exceptionnels, majeurs, issus de la recapitalisation du groupe. Donc ce qui compte, c'est 2-3 chiffres qu'il faut retenir. C'est qu'on a eu un chiffre d'affaires pour l'année qui vient de s'écouler. Notre exercice se termine au 30 septembre. C'est pour ça
qu'il y a un exercice décalé.
Voilà, on est en exercice décalé. Donc sur cette année-là, qui est la première année post-Covid, on a un chiffre d'affaires en croissance de 13% par rapport à la dernière année avant le Covid, 2019. On a une marge brute d'exploitation qui est en augmentation par rapport à 2019. Donc ça, ce sont des bons résultats dont on est content, qui montrent que le groupe, il commence à se transformer, à se réinventer, à améliorer sa performance, mais on sait d'où on vient et on sait où on va, et le chemin, il est encore long. Donc on est au début de la transformation du groupe. Mes deux éléments de satisfaction, c'est des clients toujours plus nombreux, premièrement, et des clients toujours plus satisfaits, deuxièmement.
Ouais. Et ça, c'était aussi un point noir. Donc, pour vous, le chemin est encore long, c'est l'expression forte que vous avez utilisée. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les premiers pas qui ont été franchis là, avec cet exercice 2021-22, c'était celui en bourse, donc quand même, on vous fait enfin un peu confiance. Qu'est-ce qui, à votre avis, où sont les périls pour Pierre et Vacances aujourd'hui, certains parcs?
Il y a 2-3 sujets clés. D'abord, est-ce qu'on est bien positionné? Est-ce qu'on a la bonne stratégie, les bons produits? Ça, la réponse, c'est oui. Et cette année-là, elle nous le confirme. Pourquoi? Parce qu'on a eu des taux d'occupation, je vais vous donner un chiffre, on a eu des taux d'occupation, surtout l'été dernier, à la fois pour Pierre et Vacances et pour Center Parcs, de 86%. Maeva, notre pépite technologique, a fait x3 par rapport à 2019. Adagio, qui est notre quatrième marque, est revenu à des niveaux bien supérieurs à 2019. Donc, nos produits qui sont positionnés sur un tourisme de proximité, parce que les comportements des Français, des Européens ont changé en matière de tourisme aussi, sont bien positionnés. Et on offre des expériences vraiment où, en famille ou entre amis, vous êtes au cœur de la nature, de domaines très très vastes pour apprendre, découvrir la nature et les territoires. Ça, c'est le premier point positif. Et le deuxième point, c'est que notre performance opérationnelle, la performance opérationnelle du groupe, on sait qu'elle doit s'améliorer. Elle s'est améliorée en 2022 par rapport à 2019, mais elle doit encore s'améliorer. Pourquoi ? Parce que quand on se compare par rapport au marché, eh bien, on a des marges en termes de ratio qui doivent encore progresser, même après cette année 2022, qui est la première année d'exécution d'un plan, mais qui est un plan de 4 ans.
Oui, plan sur 4 ans. Vous êtes en avance sur le plan, sur votre plan, ou vous êtes pile dans les clous?
Pile on track, oui. Par rapport au plan. Oui.
En même temps, on regarde différentes activités, Pierre et Vacances, pas complètement retrouvé le niveau d'avant Covid?
Alors, si, à retrouver le niveau d'avant Covid. Après, Pierre et Vacances, c'est plus de 10 000 résidences à la montagne, ouais, à la mer. Et donc, on a des revenus, des taux d'occupation qui ont retrouvé leur niveau, pour le coup, d'avant Covid. Mais effectivement, il y a une année où on est plutôt en croissance là, et on le voit dans les réservations de Noël. Mais il y a un an, on était encore juste sorti du Covid. Donc, il faut voir un peu la trajectoire.
Oui, pardon, mais moi, j'avais effectivement plutôt une baisse de 3,8% pour Pierre et Vacances. Donc, c'était pour ça que je vous posais la question. Comment ça va se passer, là, pour Noël? Avant de revenir un peu sur votre business, comment vous allez, ouais, comment est-ce que vous voyez ça?
Alors, on voit des réservations qui sont bonnes. On a un bon portefeuille de réservations. On est en avance par rapport au portefeuille qu'on avait à la même époque il y a un an. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce qu'on a vu l'été passé s'est poursuivi à la Toussaint. Je vous donne un exemple, on a eu 80% de taux d'occupation sur tous nos center parks sur tout le mois d'octobre. Et là, quand on se projette sur Noël et février, on voit des réservations en hausse. Donc probablement qu'on va vers 90% de taux d'occupation de nos Pirées Vacances pour Noël. Et pour février, on voit qu'on est aussi en avance par rapport aux réservations de l'an passé, avec peut-être deux éléments qui sont intéressants. Le premier, c'est que la clientèle européenne, nous, on n'a pas de clientèle américaine, asiatique, on est vraiment dans une clientèle proche.
Française et européenne.
Française et européenne. Donc, Pirées Vacances, quand on se projette à la montagne, c'est quoi? C'est 70% de clientèle française et 30% de clientèle européenne. D'abord des Anglais, ensuite des Néerlandais et ensuite des Belges. Et ces 30%, c'est revenu au niveau d'avant-crise, donc c'est bien, ils reviennent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on fait aussi évoluer notre offre, modernisation, rénovation, mais aussi dans la flexibilité. Ça, c'est très attendu. Et on sait qu'il y a quelque chose qui peine tout le monde à chaque vacances, c'est le fait d'être coincé le samedi dans les bouchons. Et donc, on tente cette année, on a 25% de l'offre qui va être du dimanche au dimanche. Et cette année, on sait que Noël tombe un dimanche, et donc ça va être particulièrement apprécié, c'est plébiscité par les clients.
Deux questions, est-ce que, on voit bien, on subit tous la question de l'inflation, le coût de l'énergie, est-ce que du coup ça a modifié les prix de location?
Alors nous, sur l'énergie, il y a une inflation qui vaut pour tout le monde,
facto,
donc, sur les coûts de l'énergie, électricité, gaz. Donc nous, on s'est couvert à 90% de nos besoins côté électricité, à 100% de nos besoins côté gaz. Ça a un impact qui est concrètement que le coût de l'énergie va prendre 2 points pour nous, passant de 5 à 7% à peu près du chiffre d'affaires l'an prochain.
D'accord. Et pour les clients, est-ce qu'il y aura un impact ou pas lorsqu'on regarde, je sais pas, l'augmentation des prix? Là, je pense plutôt à Center Park ou à Adagio.
Globalement, on a une augmentation des prix, alors qui tient compte de l'inflation. C'est normal, votre structure de coût, elle doit être reflétée.
Et l'inflation, elle est 6,2, donc je sais pas. L'inflation alimentaire, elle est plus de 12%, donc je sais pas.
Voilà, donc on n'est pas dans ces ordres de grandeur-là. Après,
vous
ce qui se passe pour nous, c'est que notre produit n'est pas du tout le même qu'il y a 3 ans. Il y a un chiffre à retenir, c'est que pour Center Parks, aujourd'hui, 85% de nos cottages sont neufs ou rénovés. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un produit quasiment neuf.
En fait, c'est un produit neuf, donc vous avez déjà augmenté vos prix en fait.
On l'a vu dans nos résultats cette année. Pour Center Parks, on a eu des augmentations de prix conséquentes par rapport à 2019. Mais pourquoi? Parce que le produit est simplement pas du tout le même. Mais après, il faut parler de chiffres. En moyenne, une nuit dans un Center Parks pour 4 personnes en 2022, en moyenne, c'est 170 euros. Pour 4 personnes, c'est une nuit dans un cottage et une journée complète au milieu de 200 hectares de forêt, avec un accès à l'aquamundo, avec un accès à tout un tas d'activités gratuites. 170 euros pour 4 personnes. Donc, on reste accessible et on souhaite rester accessible.
Parce que justement, il y a quand même un effet, on voit bien l'impact sur le pouvoir d'achat des Français. On a bien vu la baisse de la consommation, là, moins 2%, donc ça commence à devenir un petit peu fragile. Est-ce que pour vous, vous redoutez qu'il y a un impact sur le taux de réservation ou pas du tout?
On constate pas du tout à date.
D'accord.
Après, on est sur tous les sujets, évidemment très vigilant, on regarde en moniteur. Simplement, notre positionnement qui est qu'en gros, on est à 300 à 500 kilomètres de distance entre le lieu de résidence de nos clients et leur lieu d'hébergement dans nos Center Parks ou nos Pirées Vacances. Et donc, le fait d'être proche, ça veut dire qu'il y a aussi un changement de consommation, de type d'envie de consommation. Avant, beaucoup de gens partaient loin, peu regardant alors du prix, de l'empreinte écologique, l'empreinte carbone, tout ça a complètement changé, c'est-à-dire que les comportements des touristes ont changé. Et aujourd'hui, ils nous disent, on veut des choses proches, plus respectueuses de l'environnement, authentiques, moins coûteuses. Et en ça, notre positionnement de tourisme de proximité est un atout dans un contexte qui est évidemment un contexte où chacun fait attention au pouvoir d'achat.
Et en même temps, ce qui a boosté vos résultats, c'est ce qu'on appelle revenge travel, c'est-à-dire que c'est vraiment les gens qui en sortant de cette épidémie, de cette crise de la Covid, ont envie de bouger, ont envie de sortir, ont envie d'aller dans la nature, ils ont envie d'aller skier. Ça, pour vous, ça a été formidable.
Oui, et puis ils ont envie surtout de construire des moments forts avec leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Vous savez, moi, il y a une statistique qui m'a impressionné après le Covid, c'est quand on a demandé à tous les Français, après le Covid, c'est quoi votre attente, votre enseignement numéro un? Pour 70% d'entre eux, ils ont dit, ma crainte maintenant, c'est de ne plus pouvoir vivre des moments avec ceux qui me sont chers, ceux qui me sont proches. Et donc, quand on peut leur proposer ces moments-là où ensemble, ils apprennent à découvrir ce que sont les 5 sens, la nature, la faune, la flore, eh bien, c'est ça qui plébiscite. Des choses simples, finalement.
Justement, les grandes résidences de pierre et vacances à la montagne, on parlera de problème de la rénovation thermique dans un instant, Franck Gervais, mais est-ce que c'est encore adapté? Est-ce qu'on ne vous dit pas, moi je préférerais des petits chalets? Enfin, même là, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau besoin du côté de vos clients?
On est sur des résidences en moyenne, on a 80 à 100 appartements par résidence, pierre et vacances, donc l'illustration derrière vous est plutôt bonne. C'est plutôt des résidences de taille moyenne, hein. On n'a pas des grands blocs comme vous pouvez le dire.
Non, c'est
vraiment sur des choses
à taille. Non, mais c'est pas avorien, ça, on est d'accord. Mais en même temps, c'est quand même 100 appartements. Je sais pas. On pourrait avoir l'envie d'avoir des petits chalets. Vous parliez de bungalows dans les center parks. Est-ce que c'est quelque chose où il y a une demande pour ça? Vous réfléchissez ou
oui,
pas?
Oui. Voilà. Une bonne illustration pour center park, c'est le dernier center park qu'on vient d'ouvrir en mai dernier à Agen, où là, on a un center park de 400 cottages. Et vous avez des cottages qui sont vraiment des fermes au cœur vraiment d'un jardin, au cœur d'une ferme. Vous en avez d'autres qui sont dans
Ouais, mais je pensais à la montagne plutôt. J'étais plutôt sur la montagne.
Oui, on est sur des unités qui sont des unités complètement à taille humaine, hein, et ça, c'est clé.
D'accord. Mais vous n'allez pas revoir, justement, un peu à l'aune du succès de Center Park, vous dire, si on essayait de faire des résidences un peu plus petites à la montagne. Je parle de la montagne.
On a un parc qui est très correct à la montagne. On a évidemment ensuite des développements, mais il est très bien dimensionné.
Est-ce que vous avez un problème de rénovation thermique? Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un véritable fléau. Près d'un logement sur deux serait noté F ou G au sens du diagnostic, la fameuse échelle du diagnostic de performance énergétique. Est-ce que pour vous, c'est un vrai problème chez vous, dans vos résidences?
Alors, le sujet du logement, de la qualité thermique des logements, je pense qu'à la montagne, il y a un vrai sujet qui est d'abord celui des lits froids. Qu'est-ce que c'est qu'un lit froid à la montagne? C'est un lit qui n'est pas occupé.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Moi, je parle de la rénovation thermique.
Ouais. Je pense qu'à la montagne, il y a un intérêt pour tout le monde, un intérêt économique, un intérêt écologique, à vraiment favoriser la réhabilitation des logements. C'est bon pour tout le monde. Et on sait qu'on a un parc qui est un parc plutôt globalement bien dimensionné. Donc, c'est un des efforts que...
Mais vous avez regardé ça de près depuis... Ça, c'est une étude qui a été sortie du cabinet Hérault qui s'appuie sur les relevés de la DPE qui dataient de 2006-2021 dans 70 stations de ski. Donc, il y a forcément des stations de ski où vous êtes. Est-ce que vous avez regardé, du coup, comment ça se passe dans vos résidences, encore une fois?
On a regardé, évidemment, et ça veut dire que ce qu'on souhaite faire, c'est plus d'isolation, plus de traitement thermique. Il y a un bon exemple qui est une de nos grandes résidences à Avoriaz que vous citiez, où en allant mettre un plaquage bois sur la résidence, on a une isolation thermique, c'est un bon exemple. Ça permet de diviser par deux la consommation énergétique du bâtiment. Après, ce sont des sujets qui sont longs, coûteux.
Oui, mais à ce moment-là, après, on aura bientôt plus le droit de, à partir de, c'est dans quelques mois, vous n'aurez plus le droit de les louer.
Ça, c'est encore autre chose.
C'est encore un peu plus loin.
Ça, c'est un décret tertiaire pour des grandes surfaces qui accueillent du public où, en fait, on doit diminuer nos consommations énergétiques horizon 2030. Mais ça,
je parlais des appartements comme on a des appartements. Appartements à Paris, des appartements où là aussi vous avez des contraintes sur votre rénovation énergétique.
Oui, c'est globalement un sujet qui est un sujet clé pour l'ensemble des logements,
pas seulement
pour les résidents.
Pas spécialement chez vous, d'accord. Non, mais c'était le point que je voulais savoir parce qu'on dit que ça est ce qui pourra empêcher beaucoup de locations à la montagne. Donc je me disais que ça pouvait vous concerner directement. Est-ce que la restructuration financière, on va rappeler donc que vous avez fait une restructuration, c'était l'année dernière, très importante. Il y a deux fonds anglo-saxons qui sont venus, qui ont procédé à cette restructuration. Où est-ce que vous en êtes exactement aujourd'hui?
Alors la restructuration financière et capitalistique, elle a abouti, c'était le 16 septembre dernier. Oui. Il y a deux choses qui ont été faites, c'est une injection de fonds propres, de capital à hauteur de 750 millions, et c'est un désendettement à hauteur de 715 millions. Et donc cette restructuration, elle a vraiment permis d'assainir le bilan du groupe, son niveau de fonds propres, son niveau d'endettement, et de repartir sur des bases non seulement saines, mais même des bases bilancielles meilleures qu'avant la crise. Ça, c'était nécessaire, c'était indispensable pour être de nouveau en position de force, mais c'est un nouveau point de départ. Mais partant de ce point de départ-là, l'objectif, il est vraiment que les performances opérationnelles, la marge dégagée par le groupe, s'accroissent. Et c'est ça l'objectif du groupe à horizon 2025-2026, c'est qu'on est vraiment sur des objectifs qui sont encore devant nous. Donc cette première année, c'est une bonne année d'exécution d'un plan stratégique. C'est une restructuration qui était nécessaire, indispensable. Mais voilà, on a encore plein d'étapes devant nous.
Oui, mais donc là, au moins, cette restructuration, elle a été bouclée, elle est ficelée.
Elle est bouclée et elle est ficelée depuis deux mois maintenant.
Et si on regarde, le capital aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, je crois que le fondateur, l'ancien président Gérard Bremond, il n'a plus que 4%, c'est ça à peu près? Et comment ça se passe?
Alors il y a des nouveaux actionnaires, les deux fonds qui sont les nouveaux propriétaires du groupe et qui ont donc à eux à peu près 60%.
C'est deux fonds britanniques,
capital,
hein, c'est ça?
Donc il y a américain britannique, puis il y a Fidera, un acteur français gestionnaire d'actifs, donc ce sont Alcentra, Fidera et Atrim, qui ont une vraie motivation, une vraie conviction sur ce groupe et qui voient où le groupe peut aller. C'est pour ça qu'ils ont investi, qu'ils ont injecté beaucoup d'argent pour soutenir le groupe et le porter dans son ambition. Donc ils font 60% du capital. Vous avez à peu près 30% de créanciers qui ont converti, ça c'était important aussi, de convertir une dette
très crucial
en capital. Mmh. Et donc tout le monde a accepté vraiment de faire des efforts pour repartir de l'avant. Et puis les anciens actionnaires qui ont à peu près un peu moins de 10% aujourd'hui.
Franck Gervais, est-ce que vous diriez quand même que vous êtes le modèle qu'aujourd'hui vous avez ? À date, comme vous dites, le modèle d'aujourd'hui, c'est celui-là qu'il faut avoir.
Le modèle en termes de positionnement.
Oui, de positionnement, en bien sûr.
Oui, je crois qu'il y a.
Oui, je sais pas. Oui,
en termes de tourisme de proximité, le tourisme de nouveau
Center Park,
a complètement changé.
Oui.
Et donc, je ne dis pas que les gens ne partiront plus loin à l'international, mais ce qui est sûr, tout le monde le dit, les acteurs de l'hôtellerie, même de l'aérien, disent, les gens partiront moins souvent et moins loin. Et ils veulent toujours profiter, le travel revenge, ils veulent toujours profiter de ceux qui leur sont proches et découvrir. Ce qui est clé, c'est d'apprendre des choses et de le faire avec une notion de plaisir. Et quand on a, comme on a nous, tout le spectre des offres entre des domaines en pleine nature jusqu'au camping, en passant par de l'appart-hôtel avec Adagio, eh bien, on en a pour toutes les envies, toutes les offres, le tout, tout proche des gens. Et quand on parlait d'environnement, d'engagement pour préserver la planète, ce tourisme de proximité-là, en France, c'est 60% des nuitées, 60%, et il n'émet que 20% de l'ensemble des émissions du tourisme. Donc vous voyez, 60% des nuitées, 20% d'émissions. Pourquoi ? Parce que le touriste qui vient chez nous émet 5 fois moins de CO2 qu'un touriste international. Donc oui, on a ce bon positionnement. Il fallait qu'on améliore le produit, qu'on rénove, et c'est tout ça qu'on est en train de faire.
Mais est-ce qu'on peut dire quand même que le core business maintenant de Pierre et Vacances et Center Parcs, c'est justement Center Parcs plus que Pierre et Vacances ?
Après, vous avez des poids, des volumes qui sont différents. C'est-à-dire que vous avez une taille, la taille de Center Parcs, ce qui est factuellement plus importante que celle de Pierre et Vacances.
Oui, mais c'est plutôt ça que vous allez développer ou pas ? Je ne sais pas, c'est une question.
En fait, on a un groupe avec 4 marques, chacune ayant vraiment une stratégie, une feuille de route très claire. Mais en fait, toutes complètent un échiquier qui est cohérent pour aller réaliser une promesse qui est des vacances de qualité au cœur de la nature, proche de chez vous.
Oui, Adagio, c'est pas ça, puisque c'est dans des villes. Donc,
Si, ça peut être dans des villes. Oui. C'est une nouvelle forme de tourisme urbain qui est aussi.
Donc, on n'est pas dans la nature.
Donc là, on n'est pas dans la nature, mais effectivement, le tourisme urbain, il a maintenant une nouvelle forme, qui est une nouvelle forme beaucoup plus respectueuse des habitants locaux. Et c'est ça qu'on souhaite chez Adagio, c'est de mettre vraiment la vie dans la ville et de mettre en valeur des producteurs, des artisans locaux, parce que je pense que le tourisme, c'est aussi relier les gens, créer du lien, et c'est ça qui nous a manqué.
Et Franck Gervais, justement, où est-ce que vous en êtes avec Village Nature, des énormes Center Parcs que vous aviez en commun avec Disneyland? On sait que ça a été compliqué dans le cadre de cette restructuration. Je crois que vous avez récupéré l'ensemble de la gestion. Et de la propriété ou pas ?
Oui. Alors, Village Nature, qu'est-ce que c'est pour tout le monde ? C'est un de nos 7 Center Parks en France et qui est le plus proche de Paris. Pourquoi ? Parce qu'il est tout près de Marne-la-Vallée, tout près de Disney. C'est un magnifique parc, magnifique. Et donc, l'accord qu'on a eu là dans le cadre de la restructuration fait que Village Nature, on a remis Village Nature vraiment sur une très belle trajectoire. Les résultats de fréquentation, de satisfaction des clients sont bons. Simplement, il avait un problème structurel, à la fois de loyer. On avait deux exploitants, donc c'était compliqué. Donc on a choisi, comme c'est clé pour le groupe de façon générale, de simplifier. C'est ce qu'on a fait sur Village Nature. Donc au 1er janvier, on sera le seul exploitant de Village Nature, qui sera donc un de nos magnifiques center parks en France, et le tout avec une vraie envie d'avoir toujours plus de clients dans celui-ci aussi.
Oui, c'est un dossier qui était un gros dossier hein, quand même.
C'était un gros dossier.
C'est passé par le comité, le CIRI, comité interministériel de restructuration. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est un centre de perte ou pas ? Quel était le coût de reprendre Village Nature ?
Toutes les discussions, il faut retenir que toutes les discussions qui sont derrière nous aboutissent à ce que en 2023, du coup, voilà. Village Nature soit enfin à l'équilibre. Voilà. Et donc c'est ça aussi le fruit de toutes les discussions passées.
Et même mot de conclusion, 2023, c'est quoi pour vous ?
2023, c'est vraiment la poursuite d'un groupe qui est en mouvement, en action, qui est concentré. Cette année, pour moi, elle a un enseignement. C'est que le groupe, il a annoncé des choses. Il a annoncé qu'il allait restructurer son bilan, accueillir de nouveaux actionnaires, améliorer sa performance. Et 2022 le montre. Donc 2023, le but, c'est de poursuivre notre trajectoire, de confirmer et d'être toujours dans la réalisation de ce qui a été annoncé. Il y a une question de crédibilité, elle est fondamentale pour le groupe. Donc c'est vraiment la poursuite des efforts et du fait de délivrer
les promesses. À propos de restructuration d'efforts, vous avez prévu, je crois qu'il y a encore 105 licenciements en perspective, il y en aura d'autres ?
Alors, le sujet, il n'est pas le sujet des licenciements, il est le sujet des coûts du groupe.
Oui.
Un chiffre, le groupe a 10% de coûts de structure aujourd'hui. Les coûts de structure représentent 10% du chiffre d'affaires. C'est quoi les coûts de structure ? Ce ne sont pas que des hommes et des femmes, c'est aussi
c'est
plein de
des
contrats,
hommes et des, femmes,
des services. Et donc, le but, c'est de baisser les coûts de structure pour que quand un client paye 100 euros, on n'ait plus 10 euros dépensés dans les coûts de structure. Ouais. Et donc, le choix, il est fait de nous séparer, par exemple, de 40% de nos surfaces de bureaux, là, dès cette année, d'améliorer la performance de l'IT, chez nous, d'améliorer aussi les organisations et puis parfois effectivement de faire évoluer les organisations, mais ça on va l'accompagner.
Donc c'est des suppressions de postes.
Oui, mais c'est l'enjeu, il est vraiment qu'on est dans une logique au long cours, c'est-à-dire que les efforts qui sont faits maintenant, ils ont pour but que les 12 000 emplois de ce groupe, ils soient préservés à long terme et c'est bien ça qu'on fait dans notre vision.
Voilà, 2022, c'était quand même enfin sortir la tête de l'eau. Voilà, ça a été un travail difficile, on peut en témoigner ici. Franck Gervais, première étape réussie, reste maintenant les trois autres, les quatre autres années à franchir. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business. Si vous avez loupé, manqué cette interview, vous pouvez le retrouver bien sûr en replay et sur le podcast de BFM Business. Et tout de suite, François Sorel, Tech & Co.
Good evening business. La grande interview.